VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Oui, bonjour à tous, Bagassi Koura et Michel Joseph en votre compagnie ce matin. Bienvenue à cette édition du jeudi 30 avril 2015. Au sommaire ce matin.
En Centrafrique, l'ONU confirme avoir mené au printemps 2014 une enquête sur des accusations d'exploitation sexuelle et d'abus commis sur des enfants par des soldats français.
Au Togo, après la victoire annoncée de Faure Gnassingbé à la présidentielle, Jean-Pierre Fabre, le candidat de l'opposition, ne s'avoue pas vaincu.
C'est un coup de force planifié de longue date. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous allons utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour récupérer notre victoire.
Et que dit le pouvoir?
Il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Que la sagesse prévale. Gare au désordre.
À suivre, reportage de notre correspondante à Lomé.
En Côte d'Ivoire, une faction du FPI compte investir aujourd'hui Laurent Gbagbo comme son candidat au présidentiel d'octobre, mais l'ex-chef d'État est en prison à la CPI.
Il est détenu, il n'est pas jugé, il n'est pas condamné. Or, celui qui est détenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.
Et puis cette question ce matin, les Africains doivent-ils continuer à immigrer en Afrique du Sud?
C'est vrai, elle est mieux développée. Mais allez-y, et vous verrez que les Africains sont toujours derrière. Ce sont les Blancs qui vivent mieux.
Voilà des conseils ce matin de Robert Mugabe, le président du Zimbabwe. Ne manquez pas la minute écho dans moins de 10 minutes et les sports, mais avant le journal.
En Centrafrique, l'ONU confirme avoir mené au printemps 2014 une enquête sur des accusations d'exploitation sexuelle et d'abus commis sur des enfants par des soldats français avant le déploiement de la MINUSCA. Des précisions avec Eddie Isango.
Selon Farhan Haq, porte-parole adjoint de l'ONU, un responsable onusien a été suspendu pour avoir transmis en juillet 2014 les résultats d'une enquête aux autorités françaises sans en référer à sa hiérarchie. Selon les rapports onusiens, une dizaine d'enfants ont été abusés par des soldats français entre décembre 2013 et juin 2014. L'enquête a été menée par le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, qui était à l'époque dirigé par Anders Kompas à Bangui. La MINUSCA s'est déployée en septembre 2014 en Centrafrique et cette affaire concerne les militaires français de l'opération Sangaris qui s'est trouvée déjà dans le pays. La justice française a ouvert une enquête préliminaire. Les ministères français de la Défense a promis des sanctions les plus fermes contre les auteurs si les soupçons d'abus sexuels sont confirmés.
Au Mali, le processus de paix traverse une zone de turbulence avec une grande incertitude concernant la signature annoncée pour le 15 mai de l'accord d'Alger, Claire Morin-Jibour.
Des combats ont opposé hier des rebelles à l'armée malienne à Léré, près de la frontière mauritanienne. Un officier de l'armée malienne a affirmé que les troupes ont été attaquées par des rebelles touaregs de la coordination des mouvements de l'Azawad. La CMA avait prévenu mardi soir qu'il ne lui restait pas d'autre choix que d'user de son droit de la légitime défense. Les Gatia, une milice proche de Bamako, avaient repris lundi la ville de Ménaka, près de la frontière avec le Niger. Monji Hamdi, chef de la MINUSMA, a tiré la sonnette d'alarme, disant que le processus de paix est en danger. Après l'attaque de Ménaka, un convoi de l'ONU a essuyé des tirs mardi matin près de Tombouctou. Par la suite, la rébellion a reconnu que l'incident résultait d'une erreur. Hier matin, deux membres de la garde nationale et un enfant ont été abattus à Goundam par des hommes armés qui se sont enfuis à bord de deux véhicules. Pourtant, la médiation algérienne a annoncé pour le 15 mai la cérémonie de signature à Bamako de l'accord d'Alger censé mettre fin à la crise malienne.
Un représentant des États-Unis séjourne au Burundi pour discuter avec les acteurs politiques et les membres de la société civile. Depuis dimanche, Bujumbura est le théâtre de manifestations contre un éventuel troisième mandat du président. Félix Siepasi Zembro.
Tom Malinowski, secrétaire d'État adjoint aux droits de l'homme et à la démocratie, s'est dit déçu que le président Pierre Nkurunziza n'ait pas respecté l'accord d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile en 2006. Mais selon lui, il n'est pas trop tard pour rester sur un chemin démocratique et pacifique. Il a promis de parler à autant de gens et partis possibles, sans préciser lesquels. Samedi dernier, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a désigné M. Nkurunziza candidat à l'élection présidentielle du 26 juin. L'opposition et la société civile estiment que c'est une candidature de trop après ces deux mandats. Au moins 5 personnes sont mortes depuis le début des affrontements dimanche. Le pays doit tenir des élections législatives le 26 mai et un mois après la présidentielle. Inquiet de la montée de tensions, près de 25 000 Burundais ont fui vers le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Ajoutons que le Sénat burundais a saisi la Cour constitutionnelle sur la légalité d'un éventuel troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Selon l'AFP, l'opposition rejette cette démarche, jugeant la haute juridiction trop proche du pouvoir.
En Mauritanie, plusieurs milliers de Haratines, ses descendants d'esclaves morts, ont manifesté hier soir dans la capitale Nouakchott. Selon l'AFP, ils revendiquent la justice et l'abolition de la discrimination. Les doléances portent principalement sur la sous-représentation des Haratines dans les administrations publiques, les centres de décision et dans les affaires.
Les Haratines sont la composante noire des Maures, majoritaire en Mauritanie, qui a néanmoins souffert de l'esclavage. Le gouvernement a adopté au début du mois un projet de loi renforçant la répression de l'esclavage qui prévoit des peines plus sévères pour les personnes reconnues coupables d'esclavagisme. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie.
En Égypte, 69 hommes ont été condamnés hier à la prison à vie pour avoir participé à l'incendie d'une église copte en août 2013. L'église avait été brûlée le 14 août 2013 à Kerdassa, dans la banlieue du Caire, quelques heures après que plus de 700 manifestants pro-Morsi ont été tués en une journée par des policiers et des soldats en plein cœur de la capitale égyptienne. En Égypte, la peine de prison à vie équivaut à 25 années de prison ferme et ne peut aller au-delà.
Ne restez pas en Afrique du Sud, c'est en substance le message que le président Robert Mugabe du Zimbabwe a lancé aux immigrés africains attaqués en Afrique du Sud. Il a fait des remarques à la fin de la réunion des dirigeants de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. On écoute Robert Mugabe.
Our people should not have the instincts of rushing into South Africa.
Nos gens ne devraient pas avoir l'instinct de se précipiter en Afrique du Sud. Ils pensent que l'Afrique du Sud est notre paradis en Afrique australe. C'est vrai, elle est mieux développée. Mais allez-y, et vous verrez que les Africains sont toujours derrière. Ce sont les Blancs qui vivent mieux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan du séisme survenu le 25 avril au Népal approche les 5 500 morts selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les autorités locales citées par l'AFP. Un total de 5 489 personnes sont décédées dans le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le pays himalayen, a indiqué le Centre national des opérations d'urgence, tandis qu'une centaine d'autres ont péri en Inde et en Chine.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a procédé hier à un vaste remaniement, renforçant le pouvoir de son clan au sein de son royaume. Issyakaba.
Ce remaniement est surtout marqué par un rajeunissement au sommet de la monarchie. Le prince Saoud Al-Faisal, inamovible ministre des Affaires étrangères depuis 40 ans, est remplacé par l'ambassadeur saoudien à Washington, Abdel Al-Jouber, 53 ans. Le souverain saoudien a éloigné du trône son demi-frère le prince Mokhren, 69 ans. C'est la première fois dans l'histoire du royaume qu'un prince héritier est écarté. Il est remplacé par Mohamed Ben Nayef, 55 ans. Ce neveu du roi a même pris du galon. Il est désigné vice-premier ministre et conserve ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Une semaine après son intronisation, le roi l'avait désigné futur prince héritier, second dans l'ordre de succession. Cette position est maintenant occupée par l'un des fils du roi, le prince Mohamed Ben Salman, âgé d'une trentaine d'années et ministre de la Défense. C'est lui qui dirige l'opération militaire contre les djihadistes au Yémen.
Un musée consacré au nazisme ouvre ses portes ce jeudi à Munich, dans le sud de l'Allemagne, ville berceau du mouvement hitlérien. Cette inauguration coïncide avec le 70e anniversaire de la libération de la capitale bavaroise par les troupes américaines.
Le premier ministre japonais Shinzo Abe, en visite aux États-Unis, a exprimé mercredi ses profonds regrets sur le rôle du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Abe a insisté que Tokyo ne doit pas ignorer la souffrance infligée au peuple asiatique par son comportement pendant la guerre. Mais il n'a pas présenté d'excuses personnelles, préférant citer les déclarations de ses prédécesseurs. Abe est le premier ministre japonais à avoir l'honneur de participer à une session conjointe du Congrès américain.
Plus d'un millier de manifestants ont défilé dans le centre-ville de Baltimore, dans le calme ce mercredi, pour exiger plus de justice pour les Américains. D'autres marches ont eu lieu à Washington, Boston et New York. New York où la police a arrêté des manifestants qui tentaient de perturber la circulation dans le centre-ville.
La Cour suprême des États-Unis a interdit aux juges de solliciter des fonds en vue de leur élection, y voyant un risque de violation de l'impartialité et de l'indépendance de la justice. Dans 39 des 50 États américains, les juges locaux sont élus, à la différence des juges fédéraux, qui, comme ceux de la Cour suprême, sont désignés à vie.
Voilà, et la minute écho en Afrique et ailleurs, c'est avec Félix Yepassis Zembrou.
Go.
Le comité monétaire de la Réserve fédérale américaine, Fed, a maintenu les taux d'intérêt inchangés, proches de zéro, tout en reconnaissant cet hiver un ralentissement de la croissance qu'il attribue essentiellement à des facteurs temporaires. La Fed continue de prévoir une croissance modérée de la première économie mondiale pour le reste de l'année et se dit raisonnablement confiante quant à un retour de l'inflation vers l'objectif de 2% qu'elle estime sain pour l'économie. En RDC, toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnement doivent être soumises à l'appréciation du Premier ministre. Ainsi en a décidé Mataya Ponyo dans sa circulaire du 20 avril 2015 adressée aux membres de son gouvernement. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a fustigé mercredi ses compatriotes qui s'expatrient en Afrique du Sud à l'occasion d'un sommet régional tenu quelques jours après une vague de violences xénophobes dans ce pays voisin qui a fait au moins 7 morts. Le thème officiel du sommet de Harare, l'industrialisation de l'Afrique australe, a également illustré l'une des raisons de l'immigration africaine vers l'Afrique du Sud. Alors que le pays de Nelson Mandela est de très loin le plus industrialisé de la région, ses voisins n'ont guère créé d'emplois industriels depuis des décennies. Et Robert Mugabe a insisté sur la nécessité de transformer sur place les matières premières qui sont pour l'instant massivement exportées sous forme brute vers les pays riches.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donangmaye. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football. Serge Aurier reste au Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain a levé hier l'option d'achat du défenseur de 22 ans qui était prêté depuis le début de la saison par Toulouse. L'international ivoirien s'est donc engagé pour une durée de 4 ans avec le club de la capitale française. Serge Aurier, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver, sera parisien jusqu'en juin 2019. Le montant de son transfert n'a pas été précisé par le club. Et Bagassi, la suite des play-offs du championnat nord-américain de basketball, la NBA.
Oui, dans la conférence Est, Brooklyn a été battu par Atlanta 97-107. Atlanta qui mène désormais la série 3-2. Dans la conférence Ouest, Memphis s'est qualifié pour la suite en venant à bout ce matin. De Portland, 99-93, Memphis remporte sa série par 4 victoires et 1 défaite. Et pour terminer, en boxe, Las Vegas se prépare à accueillir le combat du siècle.
Mayweather Pacquiao, c'est samedi soir, mais dans la ville du péché, la fièvre est à son comble. Las Vegas et ses casinos s'attendent à accueillir plus de 100 000 fans de boxe et simples curieux. Tenez-vous bien, les 16 800 spectateurs du MGM Grand, la salle qui accueille le duel, devront débourser un minimum de 1 500 $ pour assister au combat.
Voilà, c'est tout donc pour les sports. Merci à Timothée Donangmaye. Voilà, donc Bagassi Courant, votre compagnie pour cette édition du jeudi 30 mars 2015. Place au dossier du jour. Alors que la tension monte au Burundi en rapport avec la question d'un autre mandat pour le...
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà quelques confusions ici, hein, et je crois que tout rentre dans l'ordre. Bagassi Kouram, votre compagnie pour cette édition du jeudi 30 mars 2015, place au dossier du jour. Alors que la tension monte au Burundi en rapport avec la question d'un autre mandat pour le président Pierre Nkurunziza, les pays de la sous-région observent cette situation en silence. L'Union africaine, elle, déploie des efforts dans l'espoir de mettre fin à la crise burundaise. Lionel Gaïma.
Toujours pas des réactions des pays voisins du Burundi après des jours de manifestations qui ont fait au moins 2 morts et entraîné la fermeture des radios privées par le gouvernement. Aucune déclaration de la communauté des États d'Afrique de l'Est à laquelle appartient le Burundi. Sarah Jackson, directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est, voudrait voir une réponse régionale plus vigoureuse.
Nous aimerions voir une action concertée de la communauté est-africaine. Leur silence est notable compte tenu de la situation. Toutefois, il est aussi possible qu'ils travaillent au niveau multilatéral à travers l'Union africaine en vue d'une réponse continentale.
L'Union africaine a annoncé l'envoi d'une délégation de haut niveau au Burundi dans l'espoir d'atténuer sa tension, une implication dont se félicite Sarah Jackson.
Nous savons que l'Union africaine déploie depuis plusieurs temps des efforts en coulisses sur la situation au Burundi. Et nous nous réjouissons qu'elle adopte une approche beaucoup plus publique.
Le Sénat burundais a demandé à la Cour constitutionnelle du pays de déterminer si, oui ou non, le président Nkurunziza a droit à un autre mandat. Le président et ses partisans disent qu'il a été élu en 2005 par le Parlement et qu'il peut encore se représenter, la Constitution stipulant que le président de la République est élu au suffrage direct. Les protestataires, eux, soutiennent que cette position viole les accords d'Arusha de l'an 2000 qui précisent que tout président ne peut exercer que 2 mandats au maximum. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, s'est félicitée de la décision de porter cette dispute devant la justice burundaise. Jacob Eben, porte-parole de Madame Zuma. La très ferme recommandation de la présidente de la Commission est que des partis doivent approcher ces institutions. Il y a une cour constitutionnelle au Burundi et quels que soient les sujets de compréhension ou d'incompréhension, ils doivent être portés devant cette institution. Les manifestations se sont poursuivies mercredi à Bujumbura, mais avec moins d'intensité. Le gouvernement a fermé plusieurs stations des radios privées du pays et coupé à plusieurs reprises les réseaux sociaux.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au Burundi. Impossible troisième mandat du président Pierre Nkurunziza met le pays en émoi et rappelle les heures sombres de la guerre civile. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans notre émission à 19h TU sur VOA Afrique.
Au Togo, tout comme en 2010, Jean-Pierre Fabre réclame que c'est sur lui que les Togolais ont porté leur choix pour diriger le pays. Mais ce n'est pas ce que les résultats de la CENI annoncent. Pendant que le candidat du CAP 2015 conteste donc les résultats, le gouvernement, lui, dit vouloir préserver la paix sociale. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Les résultats proclamés ce mardi 28 avril 2015 par le président de la CENI sont des résultats frauduleux.
Jean-Pierre Fabre, le candidat de combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, rejette en bloc les résultats proclamés ce 28 avril par la Commission électorale nationale indépendante CENI et qui déclare Faure Gnassingbé le président sortant vainqueur. Escale de la proclamation des résultats par le président de la CENI, Tafa Tabiou.
Nous avions 3 509 258 inscrits. Le nombre total de votants, 2 105 051 suffrages exprimés, 2 066 997 voix, 722 347 pour M. Fabre, soit 34,95%, 1 214 267 voix pour M. Gnassingbé, soit 58,75%. Au vu de ces résultats, M. Faure et Soissimna Niasindé est élu au titre des résultats provisoires.
Aux yeux de Jean-Pierre Favre, c'est un nouveau hold-up électoral et il promet ne plus se laisser faire une seconde fois.
C'est un coup de force planifié de longue date. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous allons utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour récupérer notre victoire. Nous ne saisirons pas la Cour constitutionnelle dont nous savons qu'elle est à la botte du régime en place.
Le ministre de la Sécurité estime qu'un pas a été franchi et compte préserver la paix sociale. Nous écoutons le colonel Yak Damhan.
Il y a un vainqueur, il y a un vaincu, que la sagesse prévale. Gare au désordre. Ça, j'y tiens fermement. Pas d'inquiétude, je crois qu'un travail a été fait en amont jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens en abusent. Félicitations au président élu et du courage pour les autres.
Un appel à l'endroit de la population.
Au calme, à la sérénité, à la solidarité. Nous demeurons tous togolais.
Quelques heures avant la proclamation des résultats, les présidents ghanéens et ivoiriens étaient dans la capitale togolaise pour discuter avec les deux principaux candidats et la Commission nationale indépendante CENI. Selon le ministre de l'administration territoriale, la CDAO ne va pas tolérer que le Togo bascule dans la violence. Gilbert Bawara.
La CDAO leur a dit, votre comportement là ressemble à n'en pas douter à des gens qui ont envie de jeter l'huile sur le feu et de conduire votre pays dans la violence. Mais si jamais ça arrivait, la CDAO se chargerait de diligenter une enquête internationale pour qu'on sache qui a fait quoi.
Avec un taux de participation de 59,98%, le scrutin du 25 avril a été la première élection présidentielle au Togo qui a mobilisé moins d'électeurs depuis 1998. Kyle Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Tchad, le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, parti au pouvoir et l'opposition ne s'entendent pas sur l'introduction de la biométrie pour une élection transparente et crédible en 2016. Le MPS veut aller aux élections avec le recensement biométrique, certes, mais sans kit d'identification des électeurs dans les bureaux de vote. L'opposition, elle, exige la biométrie intégrale, seule condition selon elle, pour des élections moins contestées. De N'Djamena, une correspondance d'André Kodmajingar de notre station partenaire FM Liberté.
Véritable film politique en accéléré que nous assistons ces derniers jours au Tchad. Le personnel politique du pouvoir et de l'opposition se livre à un débat sur le recensement biométrique. Et c'est Emmanuel Nadingar, secrétaire général du mouvement patriotique du Salut MPS, parti au pouvoir, qui ouvre le débat.
Nous savons que de par le monde, de toutes les élections, aussi démocratiques qu'elles sont, et des pays aussi qui ont tous les moyens de la biométrie, le Ghana est potentiellement équipé et doté plus que le Tchad. Mais il a expérimenté une fois la biométrie. Et son agenda a changé.
L'opposition bourdonne et pilonne les propos du secrétaire général du MPS. Sortie médiatique de Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition.
Le débat en cours sur le kit montre le vrai visage d'un pouvoir qui refuse délibérément d'organiser des élections transparentes. À l'image du Nigeria voisin où, malgré son gigantisme, ce système a fait ses preuves et a permis à ce pays de proclamer les résultats en moins de 72 heures. J'annonce sans embâche que l'opposition politique tchadienne, plus unie et solidaire que jamais, n'acceptera plus les oukases et autres manœuvres du MPS qui usent de la ruse, du mensonge et de la menace afin d'imposer au peuple un système électoral biaisé.
Commentaire en privé du coordonnateur du parti Fédération Action pour la République, le député fédéraliste Ngarledi Yurungar.
Une biométrie sans kit d'identification n'est qu'une lépie. Déby a dû prendre peur à cause de l'échec de Jonathan Goodluck. Et il ne veut plus de biométrie alors que il a clamé haut et fort que le Tchad ira avec la biométrie intégrale.
Le porte-parole de la coalition Trop c'est trop par intérim, une coalition des organisations de la société civile qui suit ce débat contradictoire des hommes politiques à la seconde près, fait son analyse. Paldal Oyamta.
Si on ne va pas aux élections avec les kits biométriques, autant ne pas parler de biométrie. Le kit, c'est l'élément qui garantit la fiabilité des votes et qui permet d'avoir des résultats en temps opportun.
Toutes ces réactions des hommes politiques montrent bien qu'aucune alliance politique ne veut rater les élections présidentielles de 2016. Mais connaissant bien la foi de leur adversaire, les opposants n'entendent pas aller à cette messe en enfant de cœur. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, censée départager les acteurs politiques, refuse de se prononcer pour l'instant. André Koduma Dingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Côte d'Ivoire, c'est le déchirement au sein du Front populaire ivoirien, le principal parti d'opposition. Les opposants au président du FPI, Pascal Affine-Guessant, annoncent que l'ex-président Laurent Gbagbo est élu nouveau président du parti. Il compte tenir aujourd'hui même une cérémonie d'investiture à Mama, village d'origine de l'ex-chef d'État ivoirien. Que se passe-t-il donc au sein du FPI? Idriss Fall a joint à Abidjan César Etou, ancien directeur du journal Notre Voix, proche du FPI.
Le Front populaire ivoirien va investir le président Laurent Gbagbo à la tête du parti. Les élections se sont déroulées dans les fédérations de base. Au FPI, il y a 108 fédérations. 98 fédérations ont organisé les élections et ont répondu favorablement au retour du président Gbagbo à la tête du parti. Donc, le président Gbagbo sera investi par les militants qui sont en train d'affluer dans le village de Mama où le congrès était programmé.
Mais n'y avait-il pas déjà une procédure en justice concernant le congrès du FPI?
Oui, il y a une procédure. La justice a fait reporter le 4e congrès ordinaire qui devait se dérouler. Les militants ont reprononcé la suspension du président en exercice, M. Pascal Affine-Guessant, et les militants ont organisé un 3e congrès extraordinaire à l'effet d'installer le président Gbagbo à la tête du parti. C'est contre cela que le président Affine-Guessant avait porté plainte, parce que ce monsieur est en train de tourner la page Gbagbo en Côte d'Ivoire.
Pourtant, c'était son ami, c'était son allié, c'était son premier ministre. Pourquoi?
Personne ne comprend pourquoi le président Affine-Guessant ne veut plus entendre parler du président Gbagbo. Moi qui vous parle, j'étais le directeur du journal qui s'appelle Notre Voix en Côte d'Ivoire, le journal fabriqué et mis sur le marché par le président Gbagbo. J'ai été limogé de ce poste parce que j'ai écrit un article favorable au président Gbagbo, une preuve vivante que le président Affi est en train de tourner la page Gbagbo en Côte d'Ivoire.
Mais dans quel but? C'est pour se présenter face à Alassane Ouattara aux prochaines présidentielles ou quoi?
Certainement, il a annoncé de façon unilatérale et personnelle qu'il est candidat à la présidentielle de 2015. Or, au Front populaire ivoirien, les choses ne se passent pas comme ça. Le candidat est désigné par le parti, investi par le parti. Ce n'est pas le candidat lui-même qui se propose à la candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
En tout cas, Alassane Ouattara a besoin d'avoir le FPI en face de lui pour asseoir une légitimité.
Alors, il aura le logo du FPI porté par Affine-Guessant, installé par la justice. Il va battre le logo porté par Affine-Guessant, mais il ne battra pas le FPI en tant que parti politique. Parce que le FPI, son président s'appelle désormais Laurent Gbagbo.
Mais Laurent Gbagbo ne pourra pas se présenter, il est toujours en prison à la Haye.
Il est détenu, il n'est pas jugé, il n'est pas condamné. Or, celui qui est détenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.
Voilà, c'était César Etou, ancien directeur du journal Notre Voix, proche du Front populaire ivoirien.
Salut les amis, ici Rouge et Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Rouge et Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA.
Voilà, un grand merci à toute la rédaction. Ainsi prend fin donc cette édition matinale. Michel Joseph a assuré la production. John Allison à la console technique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée.